Lisons à partir du verset 13 du chapitre 15
de la Bourse.
On donna à Caleb, fils de Yéphouné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. Kiriath Arba, qui est Hébron, Arba était le père d'Anak. Caleb en déposséda les trois fils d'Anak, Shéchaï, Aïman et Talmaï, descendants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriath Sefer. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath Sefer et qui s'en emparera. » Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle l'incita à demander un champ à son père. Elle sauta de son âne, et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ?» Elle répondit, « Accorde-moi une faveur, car tu m'as placée dans une terre du sud. Donne-moi aussi des fontaines d'eau. » Et lui donna des fontaines supérieures et les fontaines inférieures. Le reste du chapitre parle des villes qui ont été attribuées aux fils de Juda selon leur clan. Et là, on voit comment Caleb fait passer un test à son futur beau-fils. J'ai que deux garçons. Et souvent, je me demande qui va être la mère de mes petits-enfants. Est-ce que ce sont des filles, des femmes de Dieu? Et je pense que c'est encore peut-être plus difficile lorsqu'on a des filles et qu'on se demande qui va devenir leur mari. Surtout des jumelles. Et là, Caleb, il propose un test. Je donnerai ma fille à celui qui va aller se battre contre les géants et qui va emporter la ville de Kiriath Sefer. C'était un test de la foi de cet homme. Caleb avait la foi, mais il fallait encore que Othniel ait beaucoup de foi. Vous savez qu'en hébreu, Dieu c'est El, ou le pluriel c'est Elohim. Et la plupart des noms qui se terminent en El veulent dire quelque chose sur Dieu. Et Othniel veut dire Dieu est puissant. Et c'est avec cette puissance de Dieu que Othniel va aller s'emparer de la ville de Kiriath Sefer. Et Caleb va donner sa fille Aksa à ce jeune homme, Othniel. Encore une fois, la Bible, c'est un message intégré. Tout se tient. Il n'y a pas un mot qui soit là par hasard. Et ce qui est formidable, c'est de voir qu'en fait, l'homme qui va défaire les ennemis du peuple de Dieu, obtient une épouse. Othniel, ce sera le premier des juges. Et on n'est pas sans remarquer l'analogie de Dieu le Père qui a envoyé Jésus vaincre l'ennemi de Dieu, l'ennemi de son peuple, Satan, et qui lui donne une épouse. Cette épouse, c'est nous. C'est l'Église qu'il veut, que Paul voulait présenter sans ride et sans tache à Jésus. Souvent, on a l'habitude de parler en dérision de l'Église, de ses problèmes. Ou de telle ou telle représentation locale de l'Église qui a des problèmes, qui a des pasteurs qui ont des problèmes. On dit qu'elle est remplie d'hypocrites. Dieu la voit d'une façon tout à fait différente. Il vous voit aujourd'hui chacun digne d'être l'épouse de son Fils. Parce qu'il l'a, il nous a rachetés avec son sang. Il nous a enveloppés de sa justice. C'est par la foi que nous pouvons réaliser que nous sommes dignes d'un amour d'époux. Vous connaissez cette parabole dans Matthieu 13, 44 ? Où il est dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. L'étude des paraboles est fascinante. Souvent, si on se contente d'une lecture rapide ou même de ce qu'on entend autour de soi, on croit avoir compris la parabole. Et souvent, pour cette parabole, on dit que le trésor, ça va être le salut. Mais en fait, le trésor, c'est pas le salut. Le trésor dont il est question ici. Parce qu'on n'a pas à acheter ce salut. On n'a pas à vendre tout ce qu'on a pour pouvoir l'acheter. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi et cela ne vient pas de nous, c'est un don, un cadeau gratuit de Dieu. Le champ dont il est question, Jésus explique un peu avant que c'est le monde qui nous entoure, la terre. Le trésor, en fait, c'est le corps de Christ, c'est l'Église. Dieu a donné son Fils unique pour cette Église. Le Père donne un territoire, donc dans Caleb donne un territoire. Sa fille lui demande de l'eau. Il lui donne des sources d'eau, les fontaines supérieures et les fontaines inférieures. Rappelez-vous, c'était une montagne, c'était une colline, il y avait une dénivelée. Le Père nous donne un époux, le Christ. Il nous donne aussi son Esprit Saint. Vous vous souvenez que Jésus,
encourager les disciples à demander l'Esprit Saint. Dans Luc 11, à partir du verset 11, justement, Luc 11, 11, c'est un passage très important. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Tiens, fais-toi les dents là-dessus, mon fiston. Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? N'hésitons pas à demander à Dieu de nous remplir de son esprit. De nous donner ses dons spirituels. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu donne au-delà de ce qu'on demande. Là, le Père, qui est en quelque sorte une image de notre Père Céleste, Caleb, il lui donne deux fois plus. Un de mes versets favoris, c'est aussi Éphésiens 3, 20. Dieu peut faire ce que nous pensons. Il peut même faire tout ce que nous pensons. Il peut faire ce que nous demandons. Il peut faire tout ce que nous demandons. Non seulement il peut faire tout ce que nous demandons et tout ce que nous pensons, mais il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons, tout ce que nous pensons. Non seulement Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons, tout ce que nous pensons, il peut faire infiniment plus. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, tout ce que nous pensons. Par la puissance qui agit en nous. Est-ce que nous avons cette confiance que Dieu peut faire des choses merveilleuses? Est-ce que nous pensons que ce serait bien si Damien revenait à Dieu? Si Marc quitte son intérêt pour le satanisme? Si des milliers de jeunes viennent à Christ à Nice? Est-ce que nous pouvons penser ça? Est-ce que nous pouvons le demander? Est-ce que Dieu peut le faire? Non seulement il peut le faire, il peut faire au-delà de ça. Il peut le faire infiniment au-delà de ça. Et donc, Caleb donne les fontaines supérieures, les fontaines inférieures. Certains voient là les dons spirituels et les talents naturels qu'il peut donner pour servir, qu'on le serve. Passons à la suite au chapitre 16. On va lire juste le dernier verset du chapitre 15. Les fils de Juda ne purent pas déposséder les Yébousiens qui habitaient à Jérusalem, et les Yébousiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à aujourd'hui.
Jebusites lived there.
Les chapitres 16 et 17 vont parler des territoires qui ont été attribués aux deux tribus descendants de Joseph, la tribu d'Éphraïm et la tribu de Manassé. Et ils obtiennent une région très fertile, très belle, la vallée du Jourdain, qui est une vallée très riche encore aujourd'hui. Je vous laisse lire le texte, mais il est dit, verset 10 de ce chapitre, ils ne dépossédaient pas... Pardon. You want to translate? Ils ne dépossédèrent pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à aujourd'hui, mais ils furent assujettis à la corvée. Chapitre 17 parle du lot de la tribu de Manassé. Il décrit leur territoire. Et verset 12, il est dit, les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les Israélites, furent assez forts, ils se mirent les Cananéens à la corvée, mais ils ne purent les déposséder. Et donc on voit un problème là. Une obéissance partielle. On peut se dire c'est pas mal, ils ont fait 90% des commandements de Dieu. Mais Dieu avait dit qu'il fallait se débarrasser des Cananéens. Parce qu'ils étaient arrivés à l'iniquité absolue. On a parlé de leur terrible péché, terrible immoralité sexuelle qui débouchait sur, pas l'avortement, mais des sacrifices de nouveau-nés à leurs idoles. Et Dieu avait été patient. La seule solution, c'était que les Israélites exterminent ces peuples-là. Sous peine d'être eux-mêmes contaminés. Ça paraît cruel aujourd'hui, mais lorsque le chirurgien se propose d'extirper les cellules cancéreuses de votre corps, je ne crois pas qu'il y ait encore d'association qui soit pour la protection des cellules cancéreuses. Les pauvres petites cellules, elles ont le droit à la vie aussi. Ça fait rire, mais c'est la même chose pour Dieu et ses peuplades cananéennes. Et donc on voit que les fils de Juda, comme la tribu de Manassé, comme celle d'Éphraïm, n'ont pas pris complètement possession du territoire que Dieu leur donnait. Et ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Et ça, le Seigneur veut nous dire que lorsque nous combattons le péché, nous devons être sans merci. On ne devrait pas tolérer le compromis dans nos vies. Et je crois que la faiblesse de l'Église dans le monde, c'est parce qu'elle accepte le compromis. Ma faiblesse, ça vient des compromis que je tolère dans ma vie. Et la Bible veut nous montrer que pas de compromis possible. Si on tolère les compromis, quelque part, c'est un manque de foi. Si oui, Dieu veut mon bonheur, mais je vais garder un petit peu quelque chose pour moi quand même. Je vous encourage à essayer, avec sa force, de couper ses compromis. Et de voir comment il va vous bénir si vous lui obéissez. Pour vous encourager à le croire. Il dit pourtant, verset 14, les fils de Joseph parlèrent à Josué en ces mots. « Pourquoi m'as-tu donné en héritage un seul lot, une seule portion, tandis que je suis un peuple nombreux, puisque l'Éternel m'a béni jusqu'à présent ?» Nous avons dit que Caleb avait confiance en Dieu. Eux, ils étaient imbus de confiance en eux-mêmes. Ça, c'est ce que on peut appeler, ils étaient remplis d'orgueil. L'orgueil, c'est intéressant, c'est un mot qui vient du langage des barbares francs. There's no French. Et on voit ces grands barbares avec les grandes moustaches, les grandes haches, et qui semaient la terreur dans l'Europe du début du Moyen Âge. Et l'orgueil à la base, c'est une fausse image de soi. Des choses que nous avons pu accomplir ou que nous pourrions accomplir. Mais c'est un mensonge que l'ennemi veut mettre dans nos vies et qui souvent ne nous déplaît pas. C'est vrai, je suis pas mal après tout. Je suis costaud. Le petit Robert nous dit que c'est une opinion très avantageuse le plus souvent exagérée qu'on a de sa valeur personnelle aux dépens de la considération due à autrui. L'ego devient une idole. Et si je veux être l'idole, les autres doivent être poussés en bas. Je ne respecte plus les autres, je pense qu'ils sont moins bien que moi. Et la Bible a des mots très sévères, très solennels sur cet état d'esprit. Il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. L'orgueil précède le désastre. Un esprit arrogant précède la chute. Sans vouloir revenir sur l'équipe de France. Il y avait peut-être un peu de ça, hein. Pensaient qu'ils étaient déjà en finale. Ces gens avaient confiance en eux-mêmes. Ils avaient peut-être, ils le disent, ils étaient un peuple nombreux. Ils avaient, lorsqu'on regarde les chiffres avant et après le désert, on voit qu'ils étaient passés, la tribu de Manassé était passée de 32 000 à 53 000 personnes.
numbers before and after the time in the desert, but they had gone from 32,000
to 53,000. Et ils se disaient nombreux. Et ça veut dire non seulement en hébreu, ça veut dire non seulement nombreux en quantité, mais aussi leur qualité avait augmenté. Ils étaient costauds, ils étaient forts, on pouvait compter sur eux. Souvent, on considère les nombres comme une mesure du succès. L'église mormon, c'est une des églises qui grandit le plus rapidement au monde. Avec une fausse doctrine. De même, la doctrine de la prospérité grandit très vite, qui vous dit que Dieu doit vous donner la santé et la richesse, sinon il y a du péché dans votre vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le même mouvement dans le bouddhisme. Ça s'appelle la Soka Gakkai. Et il y a des millions de nouveaux convertis chaque année. Et c'est basé, bien sûr, sur un mensonge. Ils avaient non seulement de l'orgueil dans leur nombre, mais sans doute dans leur passé, dans leur héritage. Ils descendaient de Joseph, lui que Dieu avait utilisé pour sauver tout Israël à l'époque de la famine en Égypte. Peut-être vous aussi vous dites, je viens d'une famille chrétienne. Mon père était pasteur. Mon grand-père était pasteur. Tant mieux pour cet héritage, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est votre relation personnelle avec Dieu. On dit que Dieu n'a pas de petits-enfants. On n'est pas chrétien parce qu'on est le fils d'un chrétien, on est chrétien parce qu'on est le fils du Père. On convient à lui. Aujourd'hui, Nice est troisième du classement de première division de foot en France. J'ai entendu ça à la radio. Ils reviennent de très bas. J'imagine qu'ils ne vont pas rester là-haut. Mais quelque part, on est fiers de qu'une équipe locale fasse bien. En fait, c'est absolument ridicule parce que la seule chose, c'est qu'on habite dans on est de la même région géographique. Peut-être que nos impôts servent à financer aussi une partie du club, ça c'est possible. Une autre forme d'orgueil, c'était sans doute ce qu'on appelle l'orgueil d'association. Je connais Billy Graham. Il m'a déjà serré la main. Là, il faut savoir que Josué était de leur tribu, la tribu d'Éphraïm. Donc il pouvait sans doute penser, on va les rouspéter, lui dire, quand même, tu es un parent, là, tu ne peux pas nous donner un peu plus de territoire. Mais tout ça, c'est des choses qui viennent de l'ennemi. Josué a une bonne réponse. Verset 15. Si tu es un peuple nombreux, monte à la forêt et tu te déboiseras un endroit dans le pays des Phérésiens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop exiguë pour toi. Il leur dit, si vous êtes si fort que ça, allez défricher d'autres territoires, allez combattre, allez prendre d'autres montagnes. Et ça, c'est des fois une bonne réponse aux gens qui parlent beaucoup. Je me souviens quand je jouais au volley, on avait une équipe au travail à Seattle. Et il y avait un des joueurs qui aimait bien se vanter de ses exploits. Il était un bon joueur, mais le capitaine de l'équipe avait dit, si le gars est seulement la moitié aussi bon que la moitié de ce qu'il dit, on va avoir une grande équipe. Et lorsque les gens vous ennuient avec leur vantardise, donnez-leur des occasions d'exercer leur talent. C'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Les fils de Joseph dirent, verset 16, « La montagne ne nous suffira plus. De plus, il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, ceux qui sont à Beth-Shéan et ses dépendances, et ceux qui sont dans la vallée de Jisréel. » Et donc là, en fait, ils admettent qu'ils ont peur de la nouvelle technologie des ennemis. Ils ont des chars de fer. Et Josué va finir par les encourager. Au début, il les a pris un peu avec ironie. Et Josué, encore une fois, c'est un type, c'est une préfiguration de Jésus. Il y a bien des fois où Jésus nous entend nous dire, on va aller, on veut plus de territoire. Il dit, ah bon, ben vas-y. Mais en même temps, il est prêt à nous encourager. Josué dit à la maison de Joseph, versets 17 et 18, on terminera avec ça. Josué dit à la maison de Joseph, Éphraïm et Manassé, tu es un peuple nombreux et ta force est grande. Tu n'auras pas un simple lot, mais tu auras la montagne, même si c'est une forêt. Tu la déboiseras et en tireras profit. Tu déposséderas les Cananéens malgré leur char de fer et malgré leur force. Il leur dit, vous pouvez, allez-y, ayez confiance, mais ayez confiance surtout en moi. Et ça fait penser aux jeunes qui sont pleins de zèle pour servir le Seigneur. Je vais aller évangéliser la Pologne. D'accord.
Okay.
Allez-y.
Go.
Et le Seigneur est là pour encourager. Est-ce que j'ai cette attitude avec les gens qui veulent servir le Seigneur dans l'assemblée? Est-ce que vous avez cette attitude avec les gens qui sont sous votre responsabilité? Je dois remercier les personnes qui m'ont fait confiance alors que j'avais rien fait encore. J'ai toujours rien fait. Mais le Seigneur est là pour nous encourager. Une parole de découragement a besoin de 10 ou 20 paroles d'encouragement pour être contrebalancée. Et on voit aussi comment l'orgueil peut être transformé en une motivation pour le service du Seigneur. Le Seigneur sait donner assez de difficultés pour que cet orgueil se transforme en un aveu d'impuissance et en une confiance en lui. Si la première année que j'étais arrivé à Nice, j'avais une église de 100 ou 200 personnes, j'aurais pas été très drôle à fréquenter. J'aurais une tête comme ça. J'aurais pensé que tous les autres pasteurs étaient des imbéciles. Mais le Seigneur s'est chargé de me montrer que tout dépendait de lui. Et que si on le suit de tout son cœur, à 85 ans, on peut avoir autant de zèle qu'à 40 ans. Ne confondons pas confiance et présomption. Amen. Prions. Seigneur, on veut reconnaître bien volontiers que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, tout est possible. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Seigneur, aide-nous à être des Caleb qui te font totalement confiance pour tous les défis que tu nous proposes. Apprends-nous à voir comment l'orgueil te déplaît. Merci de nous reprendre, Seigneur, lorsque notre cœur cède à l'orgueil. Fais de nous des humbles, Seigneur. Et remplis-nous ta grâce. Par le nom de Jésus, nous le demandons. Amen.